Cette émission vous est présentée par
Decathlon.
Top 10 all time, les joueurs qui ont jamais évolué en NBA.
Les meilleurs joueurs à n'avoir jamais joué en NBA.
Oh, le gros sujet.
Ouais. Vrai sujet.
Parce que le gros top 10.
Si tu fais le 5 majeur, je peux dire qu'il va regarder droit dans les yeux un paquet de franchises. Hein. T'es d'accord ?
Absolument.
Le 5 majeur des types qui n'ont jamais joué en NBA, je peux dire qu'à mon avis, il peut gagner un titre. Hein.
Oh bah oui. Ouh là là, il y a des sacrés pépères.
Est-ce que j'ai au pivot ? Peut-être pas
c'est
trop
une autre affaire,
pivot.
C'est une autre affaire avec les pivots.
Mais il y aura une équipe.
Mais il y a de quoi discuter. Mm-hmm. On vous souhaite évidemment un excellent lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Le lundi.
Si j'ai un pivot, en fait, je dis de la merde, moi. Bien sûr que j'ai un pivot.
Ouais, c'est vrai.
Ah, un pivot, je peux dire un vrai pivot en plus.
Ouais.
Mais bien sûr que j'ai un pivot, je suis
ouais,
bête.
On va voir.
Ok, allez. Bref, vas-y, excuse-moi.
On est le lundi, le meilleur jour de la semaine. On espère que vous allez bien, que le week-end est dans le rétro. Et on se retrouve le lundi midi pour un top 10. On a fait du top 10 actuel, on a fait du top 10 all-time. On a parlé récemment des meilleurs américains. On a parlé des meilleurs ailiers forts, des pivots. On a parlé de tout. On continue notre grande liste. En se basant notamment sur vos suggestions. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, là, pendant que certains préparent leur déjeuner ou sont en train de s'asseoir à table, de nous suggérer vos sujets. Je sais qu'il y en a toujours plein à proposer.
Ouais, j'ai vu des bonnes suggestions dans les commentaires là récemment. Donc on a encore quelques petits top 10 à faire là pour finir la saison régulière tranquillou.
Eh oui.
Après, c'est vrai que quand on passe en mode playoff, on est sur, d'autres types de vidéos qui peuvent d'ailleurs tout à fait tomber dès lundi.
Tout à fait.
Hein, déjà de la science-fiction et puis après d'autres vidéos pendant les playoffs.
Oh là là, oh là. Oui, oh là là, ça va être énorme comme d'habitude. À partir du 18 avril, on sera là pour vous enjailler. Ça va être complètement fou. Hein. Donc on profite encore des top 10 parce qu'après, bah, c'est comme les 30 previews, ça revient.
Ça revient.
7 mois plus tard. Quoi. On est installé pour parler des meilleurs joueurs de l'histoire à n'avoir jamais mis un orteil en NBA. Attention, ce sujet est très précis. On va donner comme d'hab tous les critères. Mais on doit commencer par le premier. Je me fiche de savoir si vous avez joué un seul match
ou
50.
Zéro, nada.
Il ne faut pas un seul match officiel en NBA.
Tu peux avoir été drafté, mais n'être jamais venu.
Absolument.
C'est possible, mais il ne faut pas être venu.
Et ce n'est pas forcément, comme vous allez voir, un classement des meilleurs joueurs européens qui ont évolué en Euroleague.
Ah non, non, pas du tout. Hein.
Pas du tout.
Il y a un peu de tout là.
Le basket est global, il y a des compétitions un peu partout. Il faut essayer de dénicher un peu les meilleurs qui n'ont pas en fait évolué dans la meilleure ligue au monde.
Voilà, c'est ça. Moi j'ai pas mal de profils. J'ai plusieurs types de profils.
Comment t'as fait ? Parlons des critères, parce que le premier évidemment c'est d'avoir jamais joué en NBA, puisque Alex le disait là, tu peux être drafté mais t'as pas joué un seul tip-off, un seul entre deux, un seul match. C'est quoi un peu qui t'a aidé à faire ton classement ?
Après j'ai fouillé les types de carrières, les types de grosses carrières hors NBA. Donc tu l'as dit, évidemment qu'on a des gros joueurs d'Euroleague qui ont peut-être eu des appels de la NBA mais qui n'y sont jamais allés, qui ont cassé des bouches sur la scène internationale à plus quoi savoir en faire et qui sont des joueurs hyper forts et qui ne sont jamais allés en NBA. Ça va être, on va dire, le schéma le plus classique. Ensuite, j'ai des joueurs qui ont joué dans une autre ligue américaine qui n'est pas la NBA, hein, dans une époque environ entre 1967 et 1976, mais ça on en reparlera.
Les lettres sont plus ou moins similaires.
J'ai... c'est du spoiler limite, mais bon, voilà, il y a des mecs qui ont fait ni de compétition officielle en club ou machin, mais qui
ils
font partie, ils vont être dans le 10.
Même pas.
Ah bon, sélection nationale, je sais pas. En tout cas, moi je vais avoir un gars dans mes 10. On pourra jamais vraiment savoir. Moi, je le mets dans mes 10.
Ah, moi, j'ai dit on pourra jamais savoir.
Bah oui, moi aussi. J'en ai un surtout. Bah, j'en ai plusieurs, en fait. J'ai des gars qui ont joué, malheureusement, entre guillemets, que en NCAA. J'ai des gars qui ont joué que dans des playgrounds. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de...
Je sens qu'on va être sur un top 10 bien touffu.
Il y a plusieurs types de joueurs. Il y a du gros nom. Très très gros nom, beaucoup de talent.
Ouais, moi c'est ça qui m'intéressait avec ce sujet et d'en discuter avec vous. Évidemment, je sais qu'il y en a qui vont connaître la plupart des noms qu'on va mentionner, mais il y en a aussi qui nous rejoignent depuis quelques années et peut-être vont découvrir d'autres noms parce que vous le savez, le lundi, même si on change parfois les thématiques, on peut rester sur des sujets NBA. Donc c'est parfois des noms qui reviennent toutes les 2 à 3 semaines. Là vraiment, moi j'ai très hâte parce qu'on va parler de joueurs dont peut-être en 12 ans, on a parlé 3, 4, 5 fois sur cette chaîne. Donc là,
oh,
c'est
bah
vraiment.
Il y a des mecs qu'on n'a jamais évoqués.
Hein. Jamais trop évoqué.
Ah, ouais, jamais trop, jamais du tout, là, moi, je pense. Ah, moi, je pense qu'il y a des mecs. Ah, je pense que moi, il y a un ou deux gars, là, je pense qu'on les a jamais cités dans une vidéo Trash Talk.
Allez,
je pense.
Je vous laisse tout regarder.
Ouais, voilà. Je vous en prie, faites-vous plaisir.
Je vous laisse tout regarder et nous dire si Alex a raison là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous souhaite un bon appétit et on va justement commencer tout de suite, Alex, avec la grosse question. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, là, lundi?
Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. C'est une très, très bonne question. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, tiens, c'est quoi? Pizza. Simple, efficace, vas-y, on se prend pas la tête. On commande à emporter. Hop, on va chercher ça chez la bonne pizzeria du coin. Tout le monde a une bonne pizzeria
Alex,
du coin.
Alex, je sais quelle pizza il aime.
J'en aime pas mal. Mais
t'en as une au-dessus. Quand
je teste les pizzerias, je teste la calzone.
La calzone.
Voilà,
Alex,
calzone.
Si vous voulez faire plaisir à Alex, calzone.
Si t'as une pizzeria que tu sais pas bien faire la calzone.
Moi, c'est ça... la margarita, mon test.
La margarita.
Si tu sais faire une très bonne margarita, t'es une pizza exceptionnelle. Parce que c'est basique, mais.
Non, mais il y a peu de chances de la rater. Comment tu rates une margarita?
Ou mon ami.
Ah bon, d'accord.
Ou
okay,
mon ami.
Autant pour moi.
Les mecs, ils mettent de l'emmental, ouais. Si tu veux, ça dégage.
Quoi? Ah oui, bah non, bah effectivement. Mais si tu vas pas dans les pizzerias aussi. Eh oui, mais forcément. Non, non, bien sûr que. Bah, quoi?
Je te jure.
Ah vache, la violence. Ok. Bon, bah très bien.
Une pizza pour Alex.
Je veux pas connaître le nom. Ouais, pizza, très bien.
Eh bah écoute, moi, en spoiler évidemment, des prochaines semaines, on verra ce que donnera les meilleures adresses de ramen hein, de la région parisienne ou même de chez vous. Hein, s'il y en a qui ont des bonnes adresses de ramen, n'hésitez pas. Hein. Après, chacun a sa manière de le faire. Et dans les régions japonaises, évidemment, chacun a son type de ramen. Donc voilà, à ma team ramen ou à ma team pizza, on se régale ce lundi. Avant de parler évidemment de ce sujet, vous le savez, le lundi, on est ensemble. Alex Sarr, lui, il a bien mis un orteil NBA et pas qu'un seul. Il a mis les 10. Cette transition, c'est Made in Decathlon. Ils sont là tous les lundis avec la paire Canaveral 900 mid.
Il y a la paire blanche qui est sortie là, il y a assez peu de temps. Tiens, les lacets, ils sont encore attachés, là, disons. Qui est sortie il y a peu de temps. C'est le troisième coloris proposé par Decathlon sur la Canaveral, donc la chaussure signature d'Alex Sarr. Il y a eu la bleue là que Bastien a dans les mains, il y a une noire voilà que Bastien a dans les mains également, et donc il y a maintenant la blanche mid, donc qui monte
comme les boules
presque jusque à la cheville, mais qui ne recouvre pas la cheville, mais qui n'est pas vraiment une basse chaussure, assez légère, semelle bien solide, bien dure comme on aime. Bah de toute façon c'est pas compliqué, il y a des joueurs professionnels, il n'y a pas qu'Alex Sarr. Alex Sarr la porte en NBA, il y a aussi des joueurs professionnels en Europe qui portent cette paire. Je rappelle, c'est une paire de professionnels à 90€.
90 ouais, euros, voilà. Tout à fait, c'est disponible dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous le savez. De toute façon on se connaît le lundi, hein. C'est simple, hein. On se fait la bise, on parle des critères, on parle de bouffe et on parle de D4.
C'est voilà. Laquelle tu préfères en couleur, toi? La bleue?
Moi j'avoue que la bleue, elle me... C'est un beau bleu. C'est pas facile parfois de choisir le bon bleu, tu vois. Par exemple, toi tu portes un pull bleu électrique. Là j'aime beaucoup le bleu. On est sur un bleu France, tu vois.
Ouais,
je trouve.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Toi la t'aimes bleue. Laquelle?
La noire, moi.
Ah, non.
Moi j'aime bien la noire. Là.
Magnifique.
Ouais, la noire, j'aime bien.
Eh bien écoutez, vous savez quoi faire si vous hésitez à prendre une paire de pompes pour ce printemps et été. Eh bien vous pouvez foncer évidemment. Prendre la Canaveral 900 mid de Alex Sarr chez Decathlon. T'as une tablette?
Ouais. Tiens, juste là.
Ça tombe bien, moi aussi. Avant que... Wow, backflip.
Propre, main gauche. Hein.
Ouais, encore. Avant qu'on démarre, Alex, on essaye toujours d'éviter de se spoiler, mais il y a bien un petit nom que tu as envie de mentionner. Tu te dis, ah bah, tiens, quand même, il l'a pas foutu dans CDS quand même.
Bah, mention spéciale, Flo Pietrus.
Oui.
Mention spéciale. Ça rentre pas dans les 10, Flo, désolé. Je pense que ça rentre pas après.
Quel warrior.
Si des gens veulent mettre Flo Pietrus dans les 10, on peut écouter... moi je pense que c'est un peu juste. Je pense que son nom a forcément dû être murmuré à un moment donné par des scouts. Oh si, je pense murmuré. Vu la taille et la longueur de la carrière et le niveau qu'il avait quand même chez les jeunes, je pense quand même que ça peut pas être passé inaperçu. Je dirais même plus, si c'était aujourd'hui, je pense qu'il serait dans les ranges des scouts. Je dis pas qu'il serait drafté, hein. Mais comme le côté scout NBA s'est beaucoup élargi, s'est beaucoup internationalisé, évidemment Flo, lui, c'était quoi? C'était la fin des années 90, quoi, en gros.
Tout à fait. On parlait des frères Pietrus à l'époque.
Ouais,
c'était pas
Mike
qui
y est allé, lui, mais c'est vrai que Flo y est pas allé.
Ouais.
Donc voilà, je voulais mentionner Flo Pietrus parce que la carrière est quand même assez immense sans foutre un pied en NBA.
Bien sûr.
Voilà.
Je pense pas que je vais faire un spoiler, mais allez, quand même, je me permets, Alex. Certains joueurs des Harlem Globetrotters ont été en NBA.
Ouais.
D'autres ne l'ont pas été. Marcus Haynes.
Ok.
Tu as un indice ?
Non.
Ok. Marcus Hayes fait partie des grandes légendes. Beaucoup de personnes qui connaissent de loin les Harlem Globetrotters vont dire super le divertissement, etc. Il faut comprendre que dans les années 40 et 50, quand même, la meilleure équipe ou une des meilleures équipes de basket au monde, c'était les Harlem Globetrotters. C'est-à-dire que ce n'était pas du divertissement, c'était aussi des très, très grands joueurs et compétiteurs. On a des joueurs des Harlem Globetrotters qui ont fini en NBA, parce qu'on a eu les Harlem Globetrotters qui ont affronté les Lakers et qui ont dit, les gars, on peut vous battre. Attention,
ouais.
Hein. Les Lakers, hein, de Minneapolis, hein, les frères. Hein. Oh.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, Marcus Hayes fait partie des ball handlers exceptionnels, notamment qui a inspiré, par la suite, on l'a su, Pistol Pete Maravich, quand même, Bob Cousy. Quand tu inspires ce genre de légende, j'étais obligé de faire une petite mention pour monsieur Marcus Hayes.
Voilà. Je comprends.
Voilà. Vous voyez, on va voir large.
Tu l'as, lui ? T'en t'es 10 ou pas ?
Non, parce qu'en fait, il y a tellement de gars de l'Est.
Drazen Dalipadjic. Dalipadjic. Je sais pas comment on dit exactement.
On va laisser la commune nous dire.
Serbe, à l'époque, yougoslave.
Ben ouais.
Pourquoi je dis à l'époque ? Parce que là, pour le coup, c'est les années 70. Et à l'époque, pas grand monde qui mettait les pieds en NBA, en fait, depuis l'Europe. Hein, même, je sais même pas s'il y en avait.
Quelle époque ?
C'est les années 70, c'est quoi ces grandes années à lui ? C'est quoi ? Il est champion olympique en 80, lui ? T'en bouge pas.
72,
oui, c'est ça. Non, 80,
80.
Champion olympique en 80 à Moscou, l'équipe de Yougoslavie. Médaille d'or en 78 au championnat du monde, champion d'Europe, tous les ans. Allez, ça dégage.
Une moustache tapeur.
À l'époque, la Yougoslavie, en compétition internationale, mon poteau. Fallait se les bouffer.
Bah, d'où les remarques de tous nos darons pour les copains comme moi qui sont en 90. Ah, ils sont forts au basket, les Yougos.
C'est un peu ça. C'est réel.
Il y a des Yougos en NBA encore.
C'est réel.
Ouais, cette belle moustache. Ça,
maintenant,
ça,
évidemment, t'as la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro. Tu vois, donc forcément, c'est éclaté tout ça. C'est plus réuni en une seule équipe.
Éclaté dans le sens dispersé. Hein.
Éclaté dans le sens dispersé. C'est pas éclaté au basketball. Non, mais complètement. Les gens savent que je kiffe les joueurs des Balkans de toute façon.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que à l'époque, quand t'avais la Yougoslavie, bonjour. D'ailleurs, il y a un documentaire incroyable, hein, si vous l'avez pas vu, Once Brothers.
Ça, on en reparlera.
Ouais, on en reparlera peut-être. Mais en tout cas, ouais, qui parle de ça, qui parle de l'amitié entre Divac et Petrovic.
Bien sûr. Est-ce qu'on se ferait pas tout de suite une entrée en place numéro 10 ?
Allez,
on va se permettre.
C'est parti.
Et alors moi le 10, tu le sais, j'adore les wildcards.
Ah, moi je savais pas comment.
Ah bah moi je vais te dire comment j'ai fait, c'est un enfer, mais j'ai fait un package. Je suis désolé, j'ai fait une Alex.
Ah ouais, t'as mis plusieurs joueurs.
Ah ouais, j'en ai 4.
D'accord.
Mais parce qu'ils sont dans la même discussion.
Dans la même discussion, t'en as mis 4 ah.
Par rapport à mes critères.
Donc
tu
c'est
vois.
Un top 15 en fait hein,
Voilà. Moi on est à top 18 hein. Juste je préviens pour ce top 10.
Ok. Ah ouais.
Non mais tu vas comprendre.
D'accord.
Pourquoi je me suis fait un package. Parce que c'est du...
Ok. Bon.
Je me permets de spoiler. C'est du what if. Beaucoup. Il y a des gars comme ça. C'est difficile de les mettre à différents niveaux. Alex il nous a mis
Hangathers.
Et donc je me permets.
Vas-y, qu'est-ce que t'as mis du coup, je suis curieux, du coup.
J'ai Len Bias, Hangathers, Benji Wilson et Ronnie Fields, qui sont donc en fait des joueurs qui n'ont pas mis un orteil en NBA, avec évidemment des parcours très différents. On aura l'occasion de parler de Len Bias, qui est un des plus connus là-dessus. Mais j'ai mis dans la catégorie what if, c'est-à-dire ce sont des extraordinaires prospects où on sentait qu'ils étaient destinés à une forme de superstar, de carrière de star en NBA, mais ça restera du what if. C'est-à-dire que pour Benji Wilson, légende absolue à Chicago, Derrick Rose a porté son numéro parce que c'était Benji Wilson qui a été du coup tué. C'est un véritable drame hein,
alors,
à Chicago.
Franchement, ces types là, moi je vais parler un peu plus en détail dans Gathers, c'est que des drames.
C'est que des drames.
Hein, t'es d'accord.
Et c'est pour
c'est
ça.
Que des fins
je
en
me suis
drame.
Permis de faire un drame NCAA.
D'accord.
Donc je te laisse parler de Hank Gathers dont on a parlé évidemment dans le livre.
Moi j'ai fait un petit peu différemment.
Ah,
c'est-à-dire que moi j'ai deux de tes quatre gars dans mes 10.
Eh ben, je voulais justement rendre hommage à Ronnie Fields.
Mais je comprends.
Que Kevin Garnett avait comme coéquipier du côté de Chicago et a dit qu'il était encore meilleur que lui. Ronnie Fields, extraordinaire. Accident de moto. Il a eu un truc terrible. Le mec avait 1m40 de détente et Ronnie Fields n'a pas pu faire la carrière qu'il voulait parce qu'après, il a eu vraiment tout un casque, un harnais autour de son crâne pour le maintenir parce que l'accident a failli tuer.
C'était foutu.
Voilà.
Malheureusement.
Et donc, Len Bias, on en reparlera par la suite. Mais Hangathers, je t'en prie en 10.
Hangathers. En fait, il reste bas. Je suis sûr que s'il était allé en NBA, il serait évidemment pas dans ce classement du coup parce qu'il serait allé en NBA et qu'il aurait fait une belle carrière. Moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Bastien. C'est un what if. Donc, difficile de le mettre ailleurs qu'en 10. Parce que après, au-dessus, bah, je vais favoriser. J'en ai un autre dans le même esprit. Ah ouais. Et après, sinon, je vais favoriser des gars qui ont fait des carrières ailleurs qu'en NBA, mais où on se dit, oh putain, ouf, genre, pff, ok, bon, il y a peut-être, il aurait cassé des bouches en NBA forcément, tu vois.
Bien sûr.
En Gazers, on ne peut pas savoir, on peut juste s'en douter. Par exemple, en NCAA, son année junior, hein, pas la dernière année, l'avant-dernière année, donc c'est l'année 88-89, le type tourne en 33 points, 14 rebonds. Mm-hmm. En 33-14, quand même. C'est le meilleur joueur universitaire du pays. On est donc à la fin des années 80, on est avec Loyola Marymount.
Tout à fait.
Il y a un documentaire, pas sur lui, mais qui parle de lui, qui s'appelle Guru of Go, un sortie for sortie.
Ah, magnifique.
Incroyable documentaire, il faut absolument le voir. C'est autour de Paul Westhead et son jeu en courant et tout. En Gazer, c'était absolument incroyable là-dedans. Il a eu une alerte cardiaque.
Une première, ouais.
Une première. Et on lui a prescrit des médicaments. Le traitement n'a pas été ni bien suivi, ni bien mis en place. C'était une autre époque médicale et tout. Le pauvre Angazers, il est mort sur un terrain à 23 ans.
Il est mort sur un parquet.
Il est mort sur un parquet.
Il
s'est effondré, il est mort sur un parquet.
Tout à fait. Il fait partie de cette triste liste de basketteurs qui sont morts sur un parquet. C'est pareil, un énorme drame dans l'histoire du basket universitaire.
Il allait se présenter à la draft. C'était donc le 89-90. Il allait pour la draft 90. Draft 90, c'était un lottery pick assuré. C'était plutôt une discussion de top 5 de draft. Oui, 90, oui. Vous regarderez la draft, il y avait quand même 2-3 bébés.
Ouais, du beau jeu.
Ouais. Donc, voilà, son numéro, le 44, a été retiré, évidemment, à Loyola, à Marymount. Donc, voilà.
Bien sûr.
Angazer, c'est un mec qui a posé, c'était quand, j'ai plus la date, là, mais genre dans un match de fin d'année, c'est pas Noël, mais presque, le mec a posé un 49-26. Hein. Des stats à la Wilt. Hein. Des stats à la Wilt dans les années 80.
Il était destiné à faire une grande carrière.
Il est fort de petite taille, mais bien tanké, gros athlète.
Tout à fait.
Voilà, super joueur qui, malheureusement...
il n'a jamais joué en NBA.
Bah, il est décédé à 23 ans.
Ouais, c'est enfer, c'est enfer. À l'époque, pour détecter les histoires cardiaques, etc., c'était chaud.
Non, puis il y a une histoire de traitement aussi, qu'il n'a pas bien suivi. Bien lui aussi, enfin, entre guillemets, c'est pour... voilà. Faut voir le docu. Le docu est incroyable. Groove of Go.
Tu parleras de Monsieur Len Bias par la suite.
Oui.
Bon, eh bah, du coup, moi, c'est bon. J'ai parlé de ce qu'il fallait. Je les ai mis dans le même paquet. Allez vous renseigner, notamment ceux qui sont curieux. Vous tapez Ronnie Fields, Kevin Garnett sur YouTube. Vous allez voir des highlights. Vous allez vous dire, on est en 2013 ou on est en 1992. C'est extraordinaire de voir le niveau qu'a Ronnie Fields. Et puis, énorme documentaire aussi sur Ben Wilson, le documentaire Benji.
Ouais.
Aussi sur tout ce qui se passe à Chicago, qui est devenu évidemment au fil des années un lieu avec un très très haut taux de criminalité et donc de difficultés pour les jeunes.
Ouais, Benji Wilson, c'est Benji Wilson, d'une tristesse absolue quand même.
Tu vas à Chicago et il y a des joueurs comme Derrick Rose, et par la suite on a vu aussi Jabari Parker. Tu leur dis, en fait, tu vas encore à Chicago aujourd'hui et tu dis Benji Wilson, et il y a les gens qui font, tu sais que Benji. Ouais. Oh, le mec,
c'est comme Joachim Noah, si tu lui parles de Lenny Cook. Hein.
Ah, tout à fait.
Le mec va te dire, attends, Lenny Cook.
Il est en tennis, Lenny Cook ?
Non.
Okay. On aurait pu parler de Lenny Cook.
Complètement.
T'as pas joué en NBA, Lenny Cook.
Hein ?
T'as mis un orteil en NBA, Lenny Cook.
Non.
On est d'accord. Allez, on va passer en place numéro 9.
Je crois qu'il a même pas été drafté, non ?
Non, je crois pas.
Ou à la fin. Il faut revérifier l'histoire.
Il a fait de la Summer League contre...
Ouais, la Summer League contre LeBron et Melo.
Ouais, tout à fait. Allez, on va passer en place numéro 9. Ta 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 ta.
Voilà comment j'ai fait.
Eh ben, je me suis permis, Alex, je refais un petit combo.
T'étais sérieux, en fait, c'est un top 20.
Ouais, exactement, je t'ai dit, c'est un top 18. C'est juste pour les deux premières entrées. Je me promets.
Moi, j'ai mis Len Bias ici.
J'ai mis Monsieur Joe Hammond et Pee Wee Kirkland, que je savais pas mettre dans quelle catégorie. Ok, bon, je me suis dit, on va s'entendre, mais je vais
Hustler,
leur rendre hommage.
Mais Hustler d'Amsterdam
Avenue.
Non, je les ai pas mis.
Je te laisse parler de Len Bias.
Parce que là, vraiment, on sait pas. C'est des types qui jouent en jogging, c'est des mecs qui shootent bien. J'adore.
Attention,
c'est quand même pas Len Bias.
Tout à fait, mais on va parler après de Joe Hammond et puis Wicker Kong parce que c'était très chaud.
Enfin, Len Bias, Len Bias, il a été drafté par les Celtics. Vous la connaissez l'histoire, on vous l'a déjà raconté, on l'a écrite, on en a parlé, on a fait des what ifs.
C'est la plus grande tragédie.
Enfin, voilà, c'est l'une des plus grandes tragédies, clairement, de draft. Le mec est drafté numéro...
Il n'y a pas plus grande tragédie.
Numéro... Non, de draft numéro 3. En tout cas, il est drafté par les Celtics, qui avait gratté, qui était champion, hein, c'était la draft 86. Hein. Enfin, la draft 6, ça, c'est la draft 86. Donc, les Celtics qui venaient d'être champions, une des plus grandes équipes de tous les temps, les Celtics 85-86, je pense qu'on peut le dire, autour de Larry Bird, machin et tout. Et comme ils avaient, dans un trade précédent, gratté un pic de draft et tout, ça existait déjà à l'époque, hein, les trades de pics de draft qui se transforment avec une grosse équipe qui se recoudre avec un gros pic. Ils ont pu drafter Len Bias, qui était destiné à être plus que le successeur de Larry Bird, dans un premier temps, être le co-star avec Larry Bird, un athlète de fou malade, dont on disait qu'il avait tabassé Michael Jordan à l'université. Enfin, tu vois qu'on voulait, voilà, un athlète avec de la technique et tout.
On mettait Len Bias et Michael Jordan au même niveau avant qu'ils arrivent en NBA.
Ouais, un peu plus jeune Len Bias, c'est pour ça qu'il arrive en NBA un peu après que Jordan, je veux dire. Et le soir de sa draft, il rentre dans le Maryland, si je dis pas de bêtises, Len Bias.
C'est son université, hein, Maryland.
Ouais, c'est son université, ouais.
Quasi sûr.
Mais c'est là qu'il rentre, fais voir.
Il rentre dans son dortoir.
Voilà, il fête ça avec ses potes. Et malheureusement, ça va mal se passer, très très mal se passer.
Faites attention avec la drogue, les copains.
Excuse-moi, mon ordi est buggé. Je peux même pas vérifier Len Bias.
Maryland, c'est quoi, ça. Ouais, t'inquiète, raconte, moi je vais te confirmer ça.
Et donc. Il meurt, il se fait drafter le 18 juin et il meurt le 19 juin 86.
L'enfer.
On saura jamais. Du coup, c'est pour ça qu'il est entre guillemets que 9e. Parce que s'il avait pu aller en NBA, déjà il serait pas dans ce classement. Et potentiellement, il aurait pu être dans d'autres classements. On peut pas savoir. Le potentiel était complètement fou. L'athlète, c'est sûr, était NBA ready. Mentalement, faut toujours voir le mec avant de savoir. Hein, tu peux pas savoir. Techniquement, aucun sujet. Donc, en plus, il serait rentré dans un collectif de grands malades mentaux. Tu vois ?
C'est chaud.
Donc,
on lui souhaite. Voilà. On lui souhaite rien de dramatique, évidemment, parce que ma phrase, je sais, va être un peu bizarre. Mais imaginez que Dylan Harper, le lendemain de sa draft, il disparaisse.
C'est ce genre de délire.
En termes de talent évident, les scouts sont unanimes. La NBA a hâte de recevoir le talent et tu ne pourras jamais le voir en NBA. Jamais. Jamais. La NBA n'a jamais mis un orteil en NBA.
C'est chaud.
Allez, je fais un petit hommage parce qu'en fait, il y a
donc
tout
toi,
un...
Donc toi, t'as 8 joueurs encore là.
J'en ai 2 sur la mention, promis, après je me calme.
Ah, puis oui.
Et en fait... Oui, mais Joe Hammond aussi.
Donc, ah, Joe Hammond, bien sûr.
Tout l'univers. Non, mais parce que tout à l'heure, tu me disais, ouais, enfin, c'est les mecs en jogging, etc.
Non, alors, mais c'est pour chambrer. Parler, mais c'est parce que c'était pas des athlètes professionnels. C'est
ce
ça
ne
que
sont
je
pas
veux
des
dire.
Professionnels, mais par
ni
contre...
l'hygiène de vie, ni peut-être même le mental et tout. C'est des basketteurs talentueux. Vas-y. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas?
Absolument.
Ok.
Et je savais qu'on faisait un classement des meilleurs joueurs à n'avoir jamais évolué en NBA. Et donc. Je voulais mettre un petit peu de respect sur en fait un aspect qu'on parfois on oublie. On parle souvent NCAA ou équipe internationale, des trucs. Il y a des gens qui ont joué au niveau street et qui juste au niveau des pairs, c'est-à-dire des autres basketteurs professionnels qu'ils ont affrontés, les témoignages sont unanimes. C'est-à-dire que j'ai pas mis par exemple les mecs de N1, j'ai pas mis The Professor ou
T'as
AO.
T'as pas mis The Professor,
ça.
Tu
non.
me surprends là.
Non, bah non.
Tu me déçois là.
Non, bah non. Non, non, bah tu vois, non, par exemple, non.
T'as pas mis AO?
Non, non plus, j'adore pourtant Main Event, etc. Le seul qui a percé, c'est Skip to Milo, Rafael Stone, qui a donc fait le jump.
Ah, il a plus que percé.
Tout à fait, mais c'est pas devenu une superstar NBA,
non,
c'est
non,
devenu
non.
un excellent roleplayer
ouais,
NBA.
Ouais.
Par contre, Joe the Destroyer Hammond, juste, il y a beaucoup évidemment de on dirait, on a dit et des histoires de la rue. Il faut comprendre que Joe Hammond, c'est réel. Il a déjà claqué 50 points sur la truffe de Julius Erving Prime. Sur un playground. Alors, je sais qu'encore une fois, on va pouvoir me dire « Ouais, mais mec, tu joues en jogging, etc. » Je pense pas que Julius Erving, dans les années 70-80, il sera amené en pantoufle. Donc, Joe Hammond fait partie de ces légendes, de ces hustlers. Alex, sortait le terme. Pour Pee-wee Kirkland et pour Joe Hammond, il faut comprendre que c'est des types qui ont eu, factuellement, des offres universitaires. Pas une, pas deux, pas trois. Ce sont des stars de la rue où, en fait, il y avait 40, 50 universités qui disaient « On te veut chez nous ». Et par contre, derrière, ce sont eux qui, d'eux-mêmes, ont dit « Je préfère le lifestyle de la rue, l'argent que je récupère par les activités que j'ai hors basket. Et donc, je vais juste aller tabasser les gens le week-end sur les playgrounds, faire mon deal sur le côté et puis pas avoir de carrière ». Mais ce sont des légendes du basket. Et moi, je pense que, de la même manière que c'était un petit peu mon entrée what if, si tu veux, sur ce top 10, je pense que Joe Hammond et Pee-wee Kirkland, en NBA, ils auraient pu faire carrière.
D'accord, ok.
Je pense sincèrement.
Je sais pas, moi.
Ah bah.
J'avoue que je sais pas.
Ah, c'est pour mais, ça qu'ils sont 9e, hein. Je les ai mais pas mis 3 et 4, 3 et 6.
Pour celles et ceux qui ont vu la TBNL sur le streetball, on en parle à un moment, c'est Joe Hammond qui est en train de mettre des ficelles dans ses Pee-wee Kirkland. Qui est en train d'enfiler les ficelles, là. Les mecs, tu sais que valait mieux pas trop miser $100 contre eux sur le Telegram, parce qu'à mon avis, tu avais peu de chances de t'en sortir.
Tout à fait. Et puis, si tu gagnais, le règlement de compte, il était au bout de la rue. Donc,
après, il y avait une ambiance spéciale, mais...
Il y a des légendes de street comme ça qui, malheureusement, n'ont pas pu percer. Quoi. Après, pour tout un tas de raisons. Fallait leur rendre un petit hommage.
Eh ben, on peut mettre un numéro 8, du coup. Hein.
Qu'est-ce que j'ai mis? Là, j'ai 6 joueurs.
Tiens. En 8.
Qui tu as en 8, Alex?
J'ai Warren Jabali.
Très bien. Et moi, j'ai Earl the Pearl. The Goat. Pardon, pas Earl the Pearl Monroe. Hein. Earl Manigo. Earl the Goat Manigo. Parle-nous de ton cher camarade en 8. Je suis pas dans le 10.
Tu l'as pas?
Non.
Ah, moi, je l'ai mis, oui, en bien. Fait. Moi, je l'ai mis, joueur que j'ai découvert à l'époque quand on écrivait le gros livre orange dans mes recherches autour de la merger la fusion entre la ABA, la NBA, tous les gros joueurs et tout qui avaient là-dedans et tout. En fait, pour le coup, Warren Jabali, pas connu parce qu'il a fait que la ABA, mais il a tabassé la NBA, la ABA par contre. Il ouais. l'a tabassé.
Son talent ne s'est pas traduit au niveau supérieur.
Bah, il n'y est pas allé. Ouais. Il n'y est pas allé. Mais en ABA, le type, il est 4 fois en 7-8 saisons. Je vous dis, il y a 8 saisons, je crois, de ABA ou 9 maximum. C'est un arrière. Un arrière bien, bien costaud. Alors, évidemment, c'est la fin des années 60 et le début des années 70. Donc, évidemment. C'est dur de comparer avec aujourd'hui, mais en fait en taille, poids, qualité athlétique, le peu d'image qu'on a, ça ressemble plus à du Westbrook ou Oscar Robertson, vous voyez ce que je veux dire, ce genre d'arrière, 1m90, Oscar Robertson était plus grand, mais 1m90, 90 kg, grave athlétique et tout. D'ailleurs, la preuve, c'est que statistiquement parlant, le mec, même si c'est de la ABA et que c'est pas la NBA, il y avait peut-être pas le même niveau de compétition, mais enfin, il y avait quand même du gros monde, hein. Entre McGuinness, Mel Daniels, George Gervin, Rick Barry, Spencer Haywood, enfin,
il y a du gros monde. Hein.
Il y avait quand même du gros monde. Bon, bah là, on parle d'un arrière qui a plusieurs saisons au-delà des 8 rebonds par match. Tu vois, dont une en double-double, point rebond, hein, 23 points, 11 rebonds, hein, 4 passes. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les styles et les blocs, mais il devait y en avoir pas mal, parce que quand les styles et les blocs apparaissent en 72 en NBA, le type tourne à 2 styles, hein, direct, par match. Donc en fait, c'est un joueur très fort, qui n'est pas allé en NBA, mais qui a complètement écrabouillé la ABA, un titre, 4 fois All-Star. Il est dans la ABA All-Time Team. Donc moi, je le mets à l'honneur, j'en aurai un autre du même genre. Je le mets à l'honneur parce que je pense que concrètement, par rapport à nos légendes des playgrounds ou à nos mecs de NCAA qui ne sont pas allés au niveau professionnel, lui, en fait, il y était et il a montré. Donc, je le mets pas non plus tellement plus haut parce qu'après, je vais avoir d'autres gars qui ont encore plus montré dans des contextes, je dirais, de niveau que je considère supérieur,
oui,
en fait.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc, mais par contre, Warren Jabali, ouais, il est pas connu. Je vous conseille d'aller regarder parce que joueur très sérieux.
Tout à fait. Est-ce que tu as The Goat dans
oui.
tes 10?
Oui.
Ah, bon. Bah, je vais en parler très rapidement, mais tu sais quoi, je vais te laisser.
Vas-y, raconte.
Non, mais je vais évidemment juste montrer déjà l'image parce que. Il y a toujours des discussions de où vient le fameux acronyme GOAT, Greatest of All Time. Il y en a qui disent que c'était peut-être que Manny GOAT, c'était mal prononcé et que du coup c'était Manny GOAT, ou est-ce que c'était parce qu'il avait une attitude un petit peu laid back et donc certains pensaient que c'était un peu la biquette tranquille, The GOAT. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être qu'on entende Kareem Abdul-Jabbar parler de...
It has to be the GOAT.
J'ai envie de laisser un des meilleurs joueurs de tous les temps parler de Earl Manning GOAT. Alex le fera tout à l'heure. Là, par contre, en plus, on coche les cases de y a-t-il des endroits où il a joué avec des vrais niveaux et des vraies structures, hein, au niveau universitaire. Malheureusement, je le calais juste derrière mes légendes de la rue parce que quelle tragédie encore une fois. Hein, Earl Manigault, c'est un gars qui a sombré dans la drogue. Ouais. Il y a un film exceptionnel, L'Étoile du Bronx, que je vous conseille fort de regarder avec Don Cheadle en acteur principal. D'ailleurs, je crois que Kamel Jabbar est dedans.
Oui, il joue dedans, il joue son propre rôle.
Tout à fait. Ce qui est très pratique, du coup.
Parce que là, c'est les playgrounds de New York sur lesquels Jabbar a bien cassé des bouches avant d'aller en NCAA puis en NBA.
Exactement. Et donc, Earl Manigault, c'est un des très 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 grand what if de l'histoire de la NBA. Beaucoup s'accordent à l'époque à dire que ce mec serait venu, il aurait fait du George Gervin, du David Thompson, du gros scoring.
Du David Thompson.
Ça, du très très gros scoring. Allez, 25 ici, 25 là, hein. Et voilà l'athlète, exactement.
Mais je te laisse les anecdotes qu'il y a sur lui, c'est un truc de fou. Hein.
C'est un des meilleurs.
C'est un truc de fou.
De ce classement. Ouais, allez, on va passer en place numéro 7.
Allez, place numéro 7.
Ah, ça devient chaud là. Moi, je préviens, il y a des gars, parfois on va se dire, bah, toi tu l'as, moi je l'ai pas. C'est compliqué, quoi. Alex, il a Hervé Dubuisson.
Ouais.
Et moi, j'ai monsieur Théo Papaloukas.
Ouais, grave. Bien sûr.
J'avais une hésitation entre Théo Papaloukas et Dimitris Diamantidis.
Moi, j'ai un grec.
Il n'y a aucun des deux dans ton...
Non,
dans
mais j'ai un grec, par contre.
Oui, bah ouais. On va attendre un peu avant de parler.
Non,
mais
bien sûr. Et c'est pas Yanis. Hein.
Ouais. Non.
Yanis, il est en NBA.
Ouais, non. Il y a un autre is, mais ouf. Bref.
Ouais.
Allez, parle-nous de Hervé quand même.
Vévert. Eh ouais. Attends. Donc, pas drafté. A fait la Summer League en 84 avec les New Jersey Nets. Ce qui lui a valu de faire la une de
les
plusieurs magazines, le gars qui jumpait par-dessus les buildings, il y a eu plein de trucs sur Hervé Dubuisson.
Tous les jeux de mots sur les ponts, c'était fait. Quoi.
Assez marrant à cette époque. Il était, comment dire, en plein milieu de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'Hervé Dubuisson, sa carrière professionnelle, elle démarre dans les années 70. Il casse des bouches dans le championnat de France, franchement, de A à Z. Ouais. C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps de l'équipe de France.
Oui.
Déjà, c'est lui qui a le plus de sélections, toujours, hein, je pense. Hein.
Sélection et...
259.
Pendant un moment, le nombre de points, c'était chaud. Hein.
Voilà. Ouais. Le nombre de points sur un match, 51, je crois que genre...
On va laisser la place à Wemby.
Voilà, on a fait un bouquin sur l'histoire de l'équipe de France, c'est pas compliqué. Parmi les gens qui ont eu une double page qui parle que d'eux, il y a Hervé Dubuisson. Donc, voilà. Et il a fallu trier. Donc, il est sorti de... Il a passé le cut, comme on dit. Au scoring... Alors, il n'a pas été retenu en Summer League en 84, notamment parce que les scouts, ils n'étaient pas habitués à ce genre de profil, pas américain, pas très défensif, hein, Hervé, pas très défensif. Il suffit d'en parler avec Jacques Monclar, qui lui a joué en back court avec Hervé Dubuisson et qui se bouffait quand même pas mal de taf défensif. Hein.
De cut back door.
Tu vois,
voilà. Merci voilà. Les verts.
Mais par contre, de l'autre côté du terrain.
Non, mais une des plus grandes gâchettes de l'Europe.
Remettez-le-moi en 2004 à la Summer League et il a un contrat en NBA. Hein. Il a un contrat en NBA. Le mec, tu lui donnes des ballons en Summer League, on va tous dire, attends... Mec, il a mis 42 points par match dans la semaine à Las Vegas.
Si Adam Morrison a été drafté top 5 de sa draft, Hervé Dubuisson, il serait top 5 aussi.
Surtout qu'en plus, pour le coup, il avait bien le profil. Grand, hein. Hervé Dubuisson, c'est 1m95-18, quoi. Donc, vraie taille de 2, quoi. Shooter de grand malade mental. Bel athlète, ça monte, ça s'est scoré. Main gauche, main droite, machin et tout. Enfin bref, en gros, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Je dis pas qu'il aurait été All-Star ou quoi, je n'en sais rien. Je dis juste que 20 ou 25 ans plus tard, il avait un contrat NBA, ouais. C'est sûr.
C'est ça.
Et donc, vraiment. Et vu ce qu'il a fait en professionnel, dans d'autres ligues et sur la scène internationale, je le mets dans mes 10 parce que je pense que c'est un des meilleurs joueurs à n'avoir jamais joué en NBA.
Évidemment, monsieur Hervé Dubuisson, qu'on aurait adoré voir pour être le premier Français. En fait, c'est Tariq Abdul-Ouad, le premier à avoir vraiment foutu un orteil dans un match
officiel.
C'est
beaucoup plus longtemps, beaucoup plus loin.
C'est longtemps après, mais
c'est en 97. Hein,
c'est ça aurait dû, en fait, être soit Jean-Claude Lefebvre, soit lui. Quoi.
Ouais.
Moi, je ne savais juste pas lequel des deux prendre. Mes copains qui ont connu la carrière de Théo Papaloukas ou Dimitris Diamantidis, dites-moi, choisissez.
Pourquoi tu prends Papaloukas du coup, parce que
c'est trop chaud, parce que déjà sur mes deux premières places tu t'es foutu de ma gueule, j'ai déjà 6 mecs en deux places.
Oui.
Comment je fais? En fait, il y a tellement de légendes au-dessus, et tu vas être d'accord avec moi, les 6 prochaines places, là, c'est un enfer. Enfin, il y a énormément de légendes.
Il y a du monde.
Et donc, Papa Lucas et Diamantidis, en fait, j'hésitais entre les deux. Pourquoi ? On est sur une ère de jeu qui est à peu près sur les mêmes périodes. Hein.
Ouais.
On est surtout sur les années 2000, avec une vraie domination. Il y a un moment où Papa Lucas, meneur génial, big guard, playmaker de fou furieux, moi, dans les années 2000, mais Papa Lucas, c'était un enfer à regarder.
Non, kiff.
Le mec sur pick and roll, tu disais, mais pardon, comment on arrête ce mec ? Sa vie, clutch, il était tout le temps big time player, à mettre les shoots qu'il faut au bon moment, à être leader. C'était un des trompas de la très grande Grèce au milieu des années 2000 qui va aller chercher notamment des médailles sur les compétitions internationales.
Oui. C'était
quand
un,
il faut,
un des.
Quand,
tout à fait.
Un des. Quand il faut sortir l'équipe américaine des Chris Paul, des LeBron, des Dwyane Wade en 2006, là, et que c'est nos amis les Espagnols au Japon qui sont champions du monde, la Grèce de Sophocles Chortianitis. Il y a une sacrée bande
Sophocles
de tueurs autour.
Sophocles Chortianitis,
Baby Shaq.
Ah,
t'es obligé de le mentionner.
Baby Shaq,
hein, ouais. Bien. Et en fait, Diamantidis, c'est un autre type de joueur parce qu'on est plus sur un joueur ailier extraordinaire défenseur qui était d'une polyvalence énorme, qui est un des plus grands bourreaux de l'équipe de France avec le shoot notamment.
C'est un 3&D plus peut-être Diamantidis, peut-être un peu moins créateur et tout ballon.
Moins créateur, mais souvent sous-estimé par rapport à ce qu'il pouvait apporter en polyvalence offensive. Et en fait, Papa Lucas, c'est l'engin offensif, donc j'ai choisi lui plutôt que Diamantidis. Mais ouais, pour moi, ça... en fait, ils font partie de ce range de joueurs où je me suis dit, à cette époque, le roi, c'était Šarūnas Jasikevičius. Et lui, il n'est pas dans ce classement parce qu'il a fait le jump. On l'a vu en difficulté à Indiana et à Golden State.
Il y est allé.
C'est ça. Et ça a été compliqué. Et on a vu aussi Milos Teodosic avec les Clippers qui allait.
Mauvais timing, Milos. Il y allait trop tard, je pense.
Mais tu vois, dans ce range,
bien sûr,
des Jasikevičius et des Teodosic,
je mets derrière quand même.
Il est un cran derrière.
Je mets derrière.
Mais donc, c'est pour ça que j'imagine ce que ça aurait pu donner sa carrière. Moi, je veux bien des commentaires des OG qui ont connu ces deux garçons-là parce que c'est la très très haute Grèce du basket. Et des Grecs, comme a dit Alex, on va en reparler après. Et on a 2-3 Grecs là, enfin il y en a un surtout.
Ouais, j'en ai pas 50 non plus. Hein.
Ouais.
Parce qu'il faut laisser de la place pour les autres nationalités. Hein,
absolument.
Parce que, dis
donc. Mais c'est vrai que le basket grec, ça envoie des.
Ah,
des
attends, mais complètement, complètement. Numéro 6, hein, on
tout
est d'accord
fait. C'est un peu un coup de cœur, mais en même temps, c'est anticonstitutionnel et c'est la bonne manière d'utiliser ce terme parce que c'est pas tous les jours qu'on parle de joueurs espagnols avec le cœur.
Merde,
quand
tu
on est français.
Gaffe,
tu j'arrive. L'écris comment Antetokounmpo, pardon.
Non. Pourquoi je l'ai pas là?
Tu parles de qui? Vas-y, t'inquiète, je te regarde.
Manigault.
Hein?
Manigault.
M-A-N-I-G-A-U-L-T.
Ouais, c'est ça.
Tout à fait.
Ouais, j'étais en train de faire une faute d'orthographe.
Earl The Goat Manigault pour Alex et Sergio Llull que j'ai mis en place numéro 6 dans mon classement. Tu n'as pas Sergio?
Je sais pas d'espagnol.
Un peu de respect sur Sergio Llull.
Non, j'avoue.
Un peu de respect sur Sergio Llull.
Il est là, il y a son nom.
Oh là, Sergio Llull.
Il a pas fait le cut.
Le what if de fou.
Je comprends, mais franchement, j'ai pas trouvé d'espagnol. Et pourtant, c'est une des nations que j'ai fouillé.
C'est Sergio Llull, ça a été un des premiers noms que j'ai.
C'est une des nations que j'ai fouillé en premier.
Ah ouais,
mais je trouve, ouais, dans le sens où je me suis dit, attends, les mecs, avec le nombre de joueurs de ouf qu'ils ont sortis, les espagnols.
Ils ont souvent les bons, on fait des.
Et en fait, voilà, exactement. Ouais. Il y en a quand même énormément qui y sont allés.
Lui, il l'a pas fait. Et franchement, moi,
ouais,
c'est un gros what if pour moi. Ouais. Le mec a tout fait. J'en parle vite fait, Sergio Llull.
Vas-y,
parce que
vas-y.
Sergio,
non, mais il est fort. Attends, il est très fort. Hein.
Il est monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du basket en Europe, Sergio Llull. Il a tout gagné, le mec. Il a tout fait. Il a tout fait avec le Real, il a tout fait avec l'Espagne. C'est un monstre absolu. Moi, certes, je le croise, je vais lui dire « Bonjour, je suis français, donc on va avoir du mal à s'entendre. » Je te confirme, Alex. Mais Sergio Llull, combien d'années de suite on a eu des rumeurs de « Il va faire le pont avec les Rockets ». Regarde, Alex, il est sur sa page wiki. T'es mal à taille.
Ouais, mais justement,
t'es mal à
je voulais,
taille du palmarès,
je
mon
faire
frère.
Une vérif. Ouais. C'est un immense palmarès.
C'est un énorme joueur.
C'est un immense palmarès collectif. Et ça ne veut pas dire que je ne trouve pas que le joueur est fort. C'est un joueur de collectif. C'est un joueur, c'est un leader, un joueur de collectif. Mais intrinsèquement, individuellement parlant, en termes de jeu, de évidemment, super défenseur capable de mettre des 3 points, tu vois. Mais par exemple, ouais, je le mets derrière un Rudy Fernandez en termes de joueur pur.
Si tu veux.
Et je le mets derrière, évidemment, les frérots Gasol.
Tu mets derrière comme ça. Navarro, par exemple.
Voilà.
Juanca Navarro.
Voilà, moi, lui, il y est allé.
Oui, tout à fait, mais en termes de joueur, je te suis, c'est
mais
moins bon.
C'est pour ça, en fait, que je le mets pas dans mes. C'est pour m'expliquer. Est-ce que j'étais en train de vérifier qu'est-ce qu'il a d'un point de vue. Alors, il a quand même été MVP de l'Euroleague une fois, quand même.
C'est pas mal.
Et sinon, bon, c'est des MVP de ligue de
bah,
championnat.
C'est pas mal.
Ouais, mais enfin, c'est pas.
Du championnat espagnol.
Non, mais du coup, bah, du coup,
moi, le meilleur championnat espagnol.
Bah, non, mais du coup, mes gars au-dessus, ils ont des meilleurs palmarès indifs, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, en fait.
Le championnat voilà. espagnol, y a-t-il meilleur championnat que le championnat espagnol sur les 15-20 dernières années en Europe?
Non, je pense pas.
Il y a pas. Bah, donc, enfin, je veux dire, quand tu dis,
peut-être
bon, c'est
le championnat grec, peut-être. Ah, il y a des gros clubs. Quand même, hein.
L'Espagne, en tout cas, sur les 20 dernières années, est le meilleur championnat en Europe.
Non, mais
est considéré pour beaucoup
2017,
comme la meilleure
Sergio
ligue.
Lul,
NBA,
il est MVP de EuroLeague. Il a gagné trois fois l'EuroLeague, si je dis pas de conneries, avec le Real Madrid.
Il tient tête, même lorsqu'il joue avec l'Espagne, dans les matchs avec les plus gros talents en face. C'est-à-dire que si c'était un mec qui procédait juste le championnat espagnol et l'EuroLeague, et derrière, lorsque tu joues avec l'Espagne, le mec est 8e homme, je te dirais d'accord. Sauf que Sergio Lul, on l'a toujours vu dans les plus grands moments avec l'Espagne. Moi, j'étais obligé de le mettre, mais j'entends. Je te laisse parler d'Armaligo.
Armaligo, bon, écoute, t'en as bien parlé tout à l'heure. J'ai pas forcément grand chose de plus à rajouter. Histoire tragique, talent sur papier, talent générationnel. Si on en croit les dires de ses contemporains comme Karim Abdul-Jabbar ou Julius Erving, talent générationnel aussi. Mm-hmm. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Ça aurait certainement été un arrière absolument fabuleux en NBA.
Bah ouais.
Je parle par rapport à la taille et tout, aux qualités athlétiques, au style de jeu et tout.
C'est un what-if.
C'est un gros what-if. Je l'ai monté jusqu'au plus haut.
C'est le plus haut what-if. Ouais.
Je l'ai monté jusqu'au plus haut que j'ai pu. C'est en place numéro 6. Après, au-dessus, j'ai 5 joueurs avec des bonnes grosses carrières de professionnels.
Ah, bien sûr. Bah, c'est pour ça que notamment, moi, j'ai mis Sergio Lul. C'est qu'en fait, le mec, j'ai vu à un très très haut niveau ce qu'il est capable de faire. Ça là-dessus. Mais Earl, The Goat, on est obligé de l'avoir en fait.
Ouais, je comprends, mais c'est vrai que Sergio Lul, c'est un vrai débat. Je veux bien l'avis des gens. Non, moi, j'ai l'impression que Sergio Lul en NBA, il aurait été role-player. Au mieux. Tu vois, au mieux.
Ah, mais.
J'ai l'impression. Alors que mes autres gars, là.
On peut que faire des impressions.
J'ai mes what if. Attends, excusez-moi, c'est parce qu'on m'appelle. Hop là, je coupe.
Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, l'idée, c'est. J'ai pas fait un classement de. Voici mon top 10 des joueurs qui, je pense, auraient été des stars. C'est des mecs qui ont été très, 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 très forts dans leur domaine. Ils ont été très, très forts,
ouais.
Y compris Sergio Lul.
Ouais.
Et en fait, il y a des gars où, si j'ai de plus en plus d'éléments qui me permettent de l'imaginer en NBA avoir un rôle, du coup, je veux bien le classer. C'est-à-dire que Len Bias, oui, on peut se dire que ça aurait pu être...
Len Bias, ouais, c'est un what-if. Là, j'ai
mais ça aurait pu être Wesley Johnson ou Andrew Wiggins, tu vois.
Tout à fait. Ah, complètement.
On ne sait pas. Et en fait, moi, j'ai un peu mieux classé, mais bon, après, c'est chacun
Oui. Je comprends. S'ils
ont fait,
moi,
en fait,
un peu plus dans la science-fiction.
Ah, bah ça...
Un peu plus, là, sur ce coup-là.
Eh ben, on va rentrer dans le top 5.
Top 5.
Je crois que c'est là que je vais mettre un gars dont... que tu as trailé, pas spoilé, mais trailé sur... Il me reste un gars de ABA. Peut-être qu'on n'a pas le même, d'ailleurs.
Aussi, je pense, quand même.
Monsieur Roger Brown.
Ouais, ouais. Je l'ai.
Et Alex, qui a Chris Mirkozic.
Je l'ai juste devant, ouais. Roger Brown. Je l'ai en 4.
Parlons de Chris Mir.
Tu l'as, Chris Mir?
Non, il y a trop de légendes. Moi, j'ai des cas, j'ai pas.
C'est pour ça que j'ai un pivot.
Eh oui.
Du coup, j'ai un pivot.
Là, t'as un pivot. Et alors, là, pareil, en termes de mecs qui ont fait des trucs en Europe, allons-y. À mon ami. En fait, il y a des gars, ils ont les noms de tous les trophées. En fait, tu sais, c'est l'enfer.
Attention, Krešimir Mirkosic,
lisez
notre livre orange. Ah ouais. Il y a des histoires entières dédiées au record déposé par Krešimir Mirkosic. Krešimir Mirkosic, je vais vérifier. Donc, lui, je crois qu'il est né à Zagreb. Donc, c'est un croate. Oui, c'est ça. Qui a joué, évidemment, du coup, à l'époque pour l'équipe de Yougoslavie. Lui aussi, avec Dali Pajic, dont je parlais tout à l'heure, c'est champion olympique en 1980, c'est champion du monde en 70 et en 78, 2m10, joueur technique, costaud, athlétique. Il a été drafté.
Oui, il a été drafté, j'allais te demander.
Ouais, il a été drafté au milieu de sa carrière professionnelle, lui aussi, je suis en train de regarder, parce que là, il joue pas mal. Ouais, c'est ça. Au milieu de sa carrière, au milieu de sa carrière professionnelle, il est drafté par les Los Angeles Lakers. Bon, à l'époque, c'était une autre histoire. Hein. Il est drafté genre au 5e tour, c'est l'équivalent de 80e ou par là, par les Los Angeles Lakers. Et il y va pas.
Non.
Il y va pas. Il reste à Zadar, son club. Après, il ira jouer à Bologne et en Italie à Cibona. Mais il ne va pas aller en NBA. Mais clairement, en termes de pivot, lui, il aurait pu être le premier grand joueur européen de la NBA s'il y était allé là en 73. Il aurait pu. Il aurait pu parce que vraiment, il cassait des bouches. Scoring, rebond, contre, domination, défensivement, offensivement. Enfin, c'est vrai que Krešimir Kosić, ben, je vous dis, dans notre livre orange, on parle de lui à plusieurs reprises. Oui. Il y a plusieurs records qui sont de lui.
Oui, voilà, absolument.
Et non, puis, ben... il a été MVP de l'Euro, de l'Eurobasket. Je suis en train de relire là. MVP de l'Eurobasket, ça gagne un peu toutes les coupes. Il fait partie des 50 greatest de l'Euroleague. Enfin, tu vois, genre, voilà, il fait partie des 50 greatest de la FIBA aussi, de 91. Il a son numéro retiré à l'université, parce qu'il a, il a fait une université américaine. Hein. C'est pour ça qu'il a été drafté.
Oui.
C'est pas parce qu'il y avait des scouts, oui, excuse-moi, parce que je donne pas tous les éléments aux gens. Il a fait BYU, Brigham
comme notre ami,
Youth University.
A.J. Dimansa, ça.
Ouais.
Je crois, hein.
Ouais, il a fait BYU comme ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a été drafté, parce que du coup, il était aux États-Unis, donc les mecs pouvaient le scouter, parce que dans les années 70, je pense pas qu'il y avait des masses de scouts NBA qui se baladaient à Zadar ou tu vois ou dans les matchs de championnat européen. En revanche, voilà, lui, université américaine, drafté par les Lakers quand même, c'est pas rien, tu vois, la vie à Los Angeles, tout ça. Et ben non, le gars, il dit non, non. Moi, je vais jouer à Zadar. Voilà, merci. Merci, ciao, bye bye. Enfin, je vais retourner à Zadar. Il avait joué à Zadar avant d'aller faire l'université aux États-Unis.
Absolument.
Parce que le profil physique du type se voyait trop sur un terrain. Donc, ça, Krešimir Kosić, pour moi, c'est incontournable dans ces 10-là.
Allons-y, on parlera de monsieur Roger Brown.
Ouais,
aussi.
Je le mets en 4.
Ah, tu le mets en 4?
Oui, j'arrive comme ça.
Parlons de Roger. Oh, parce qu'en fait. Quelque part, lorsqu'on parle de ABA, c'est lui le mec qui n'a pas fait le jump et qui aurait dû. Et qui
et encore plus que Warren Jabali.
Complètement. Tout à fait. Roger Brown, on va peut-être commencer par parler de la citation de Reggie Miller.
Ouais, vas-y.
Bah, le meilleur joueur de l'histoire des Pacers, c'est pas moi, c'est lui.
Ouais, ouais, tranquille.
Déjà, on va dire les choses clairement. Là, on est sur du what if parce que lorsqu'il démarre sa carrière, malheureusement, elle est assez vite écourtée à cause d'une histoire, un scandale. Quand même de paris sur les matchs.
Match truqué.
Tout à fait. Dans lequel, au final, il ne sera pas, mais sa carrière, elle est très,
sa
très
carrière est niquée, alors qu'en fait, il a été innocenté après.
Il a été innocenté, absolument.
Il a joué en NBA, en ABA, pardon, pendant 8 ans, quand même, de 67, quasiment toute la ABA. Il a tabassé la ABA.
C'est-à-dire que là, moi, où ça monte comme toi, c'est que quand tu as été très, 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 très fort en ABA, oh frère, t'es le cousin germain de la NBA. Donc si tu discutes à la table des Julius Erving, Spencer Haywood et tous les gars que tu as mentionnés, bah, tu dois être dans ces 10.
En tout cas, il y a peu à douter que s'il était allé en NBA au poste, quoi, c'est un 3-4, quoi
2-3.
2-3. Je pense qu'il aurait cassé des bouches.
Mais bien sûr.
Hein, t'es d'accord.
Bien sûr. Il a plus de points. Il a plus de points, je crois. Il a une moins bonne moyenne, mais il a plus de points que Julius Erving en ABA. Il y a de la passe.
Oui, c'est un 2-3. T'as raison. C'est pas un 3-4.
C'est un 2-3 qui a scoré. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la ABA, comme l'a dit Alex. Pareil.
Bah, il a été MVP.
Il a MVP des finales, 1970, si je dis pas bêtise.
Oui, il est MVP des finales. Il a 3 titres.
Il a 3 titres avec ses Pacers. Le mec, qu'on soit très clair. Il n'a pas mis un orteil en NBA, il a son maillot retiré chez
les
Pacers.
Ouais.
D'accord ?
Maillot 35.
Donc le mec,
retiré.
Dans une franchise NBA, son maillot, il est retiré.
Il a joué avec McGuinness, il a joué avec Mel Daniels, il a joué avec plein de gros
et
joueurs
c'est
comme ça.
C'est que McGuinness et Mel Daniels, eux, ils ont fait le jump. Alors Mel Daniels, vraiment, a failli faire partie de mes 10, mais il a joué 10 matchs avec les
il
Nets.
A joué.
Donc,
il a joué ?
Il sort, tout à fait.
Sinon, il était dans les 10. Hein,
sinon,
c'est
il
sûr.
Était dans les 10, Mel Daniels, tout à fait. Mais Roger Brown, c'est vraiment... vous faites un top 15 des meilleurs joueurs de l'histoire de la ABA et vous allez avoir Roger Brown dedans, à côté de mecs qui, en NBA, ont tout fracassé. T'as dit Artis Gilmore, Julius Erving, t'en as parlé. Comment il s'appelle ? C'est pas Dallaris, c'est comment il s'appelle Ah là là là.
Qui ça ?
À chaque fois. Un des meilleurs scoreurs blancs qui était en ABA et qui a fait le jump. Bref, je vais retrouver mon nom, je vais retrouver mes gars.
Je vois pas de qui tu parles.
T'inquiète, je vais venir tout de suite, je vais dire ça.
Un des meilleurs scoreurs, Rick Barry.
NBA scoreur. Non, mais pourtant, il est aussi dans la conversation. All-time NBA scoreur, NBA, ABA. C'est monsieur Danny Seul. Excuse-moi.
Ah oui. Ah oui, il est allé en NBA bien fort, lui. Attends,
oui,
pardon.
Et en NBA, il a sali.
Mais
Roger Brown, il était dans ce même genre de conversation. C'est-à-dire, bon, bah, les gars, moi, si je fais le jump, je vais tous vous massacrer. L'homme aux mille moves. The Man with a Thousand Moves.
With a Thousand Moves.
The Raja.
Ouais. Non, non, il a des beaux surnoms. Non, non, Roger Brown, bah, c'est là, c'est en place, hein, Roger Brown. Hein.
Tout à fait. Donc toi, t'as mis monsieur en numéro 4. Ouais. Alors, numéro 4, c'était entre Kozic et un autre garçon qui est... Je me demande s'il est... si on a le même finish. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a pas Sergei Belov dans ton classement. Bon, bah voilà.
Ah, tu... Mais attends, c'est qui que t'as pas, toi, du coup?
Bah non, après, on a les trois autres.
Ah oui, c'est ton 4. C'est 4. Oh putain, j'ai
non,
eu peur.
Non, non, c'est bon. Non, non, c'est juste que quand toi, tu as mis Kozic, moi, j'ai hésité entre t'as Kozic et Sergei Belov. Pour ceux qui n'ont pas Sergei Belov, juste pour remettre dans le contexte.
Je sais pas comment le classer.
Premier joueur international non-américain à avoir intégré le Hall of Fame. Déjà, on va mettre les choses extrêmement claires. Lorsque tu es le premier non-américain à rejoindre le Hall of Fame, ça te pose un garçon. Tu parlais des Jeux Olympiques de 1980. C'est qui allume la flamme olympique à Moscou?
C'est Sergei Belov.
C'est Sergei Belov. Okay. C'est une des plus grandes, c'est la plus grande figure de l'histoire du CSKA Moscou, qui est quand même un club. Voilà. Il n'a pas les distinctions individuelles dont tu parles avec Krešimir Kozic.
Non.
Et c'est ce qui lui manque. Mais en termes de légende absolue, j'étais obligé de le mettre parce que Belov, en fait, bah, il y en a plein qui se disent dans les années 80, il aurait pu faire partie des premiers à poser les bases pour les Divac, les Petrovic et compagnie.
Mais je crois plus en un Kozic. Mais tout
individuellement,
à fait,
absolument. Je voulais rendre hommage évidemment à un très très grand nom du basket européen, monsieur Sergei Belov. Alors, le podium, on va probablement avoir le même, j'espère.
Les mêmes joueurs, oui. Après, on va voir pour l'ordre. L'ordre, il peut se discuter. Hein.
Non, c'est je rigole. Allez, qui on a? Attends, je reviens juste sur mes notes. Qui j'ai mis en... Numéro 3, tu as mis?
Nikos Galis.
Ouais, tu vois, j'ai mis Bodiroga. Ah bah oui.
Oh là là.
Oh là là. Oh là là.
C'est clair.
Alors, monsieur Nikos Galis pour Alex et moi, monsieur Dejan Bodiroga, parlons-en. Vas-y, parle-nous de monsieur Nikos Galis.
Ouvrez une page internet, Wikipédia ou autre sur lui, lisez son palmarès et on se retrouve en 2027. Hein, on se revoit en 2027. Le palmarès du type, c'est n'importe quoi. Il faut, ça tient pas sur une page, il faut scroller.
Le plus grand joueur de l'histoire de la Grèce, c'est Nikos Galis. Désolé, Yanis.
Ouais. En tout cas...
Le mec qui a posé les bases de la culture du basket en Grèce, son nom c'est Nikos Galis.
C'est un meneur arrière,
ouais.
Petit mais costaud. Et alors le scoreur, c'est n'importe quoi.
Tu veux parler de 87?
Le scoreur, non mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Le mec, oui bah 87, il... de toute façon c'est pas compliqué. Quand tu lis son palmarès, il y a les trucs qu'il a gagnés. Puis il y a 87, des fois il y a plusieurs années, mais il y a toujours 87. C'est-à-dire qu'en 87, c'est à lui. Tout est à lui.
Pour ceux
tout.
Qui l'ont pas en 87, c'est notamment le championnat d'Europe à 37 points de moyenne.
Bah, la Grèce est championne d'Europe.
Alors, exactement. Imaginez aujourd'hui un championnat d'Europe où le mec remporte le titre en étant à 37 points de moyenne. 37 points de moyenne.
Non, non, mais il est MVP de cet Eurobasket, bien évidemment. Cette année-là, il est top scorer de l'Eurobasket pour la deuxième fois de sa carrière et il le sera encore deux autres fois. Il est top scorer de 4 Eurobasket, le type. Il est Monsieur Europa Award, Mediterranean Player of the Year. Il est évidemment dans la European FIBA sélection. Je fais 87 là. Cette année-là, il a gagné la Coupe de Grèce.
Là, on est en mars.
Ça, c'est anecdotique. Il est évidemment... il est meilleur top scorer de la Coupe de Grèce. Ta-da-da. Il est Greek Athlete of the Year. Tu m'étonnes. Enfin, n'importe quoi. Ensuite... Le type, mine de rien, il a son numéro qui est retiré en équipe nationale de Grèce. Le numéro 4, personne ne porte le 4 hein, en équipe nationale de Grèce. Alors, je suis contre, moi, je le dis, hein, les retraits de numéros de maillot en équipe nationale. Parce que je préférerais qu'on les mette au plafond, mais qu'on laisse des mecs jouer avec le numéro. Je trouve ça bizarre. C'est
j'entends.
L'équipe nationale et tout. Mais ça montre quand même le délire. Et bien sûr, à Laris Salonique, son club... Voilà, numéro 6, par contre personne joue avec, ça c'est sûr.
Et c'est pas demain que ça va se changer.
Ah non, 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 non.
Quoi,
non.
Dans une mauvaise saison, il a 34 points de moyenne.
C'est une putain de légende. c'est un scoreur de malade mental. C'était plutôt.
Stats,
hein.
C'était plutôt.
Bah, je peux te trouver de la stat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va trouver de la stat. C'est-à-dire que là, je sais pas si j'ai. Voilà, player profile, non. Highest scoring single game by competition. Tiens, ça c'est rigolo à faire. Le highest scoring single games by competition de Nikos Galis. C'est-à-dire le plus gros scoring en un match par compétition de Nikos Galis. Donc en Coupe du Monde, d'accord ? 53 points. Grèce contre Panama. Bon, doucement. Tu vois, genre Panama au basket quand même sans leur faire offense. En Eurobasket, 46 points. En Euroleague, 52 points, son record. En l'époque, il y avait la Coupe Korac, 56 points. Attention, en Greek League, hein, 62 points, c'est son record. En Greek Cup, donc la Coupe de Grèce, hein, 52 points. En Super Coupe de Grèce, 44 points. Et en NCAA, parce qu'il est allé quand même vite fait en NCAA, il a été drafté, hein, notre ami Nikos Galis, il a mis combien de points en NCAA? Il a mis 48 points. Et il a été drafté, comme ça je suis complet, je vous trouve, je crois que c'est en 79, 78, c'est en quelle année qu'il est drafté? 79,
puisque c'est un des plus grands regrets de Red Auerbach, RIP, qui avait dit j'aurais aimé qu'il ne se blesse pas, parce qu'il se blesse, ouais. Nikos Galis.
Ouais.
C'est la même année.
Drafté par les Celtics, hein, c'est pour ça que Bastien parle de Red Auerbach. Hein.
Tout à fait. C'est la même année rookie qu'un certain Larry Bird. C'est-à-dire qu'il y avait le potentiel que Larry Bird et Nikos Galis jouent dans la même équipe. Là, je vous remets juste une petite photo avec Yanis et Nikos Galis, ouais, parce que tu vois, ils sont très très forts. La moyenne en Grèce en carrière, c'est 34 points de moyenne. En moyenne.
Scoreur de ouf qui aurait scoré en NBA. Je fais un conditionnel parce que bah,
ah non, mais ça,
c'est même un futur.
C'est sûr.
Tu vois, genre.
C'est vraiment pour ceux qui se demandent d'où le basket vient en Grèce, c'est en deux mots, Nikos Galis. Le mec a posé les bases. Et j'ai même une quote qui va tout vous dire, parce que vous savez qu'on aime bien sortir parfois ce que les pères disent. Tu l'as la cote de Petrovic?
Non.
On est en plein championnat d'Europe en 87. Petrovic en 87, Alex, on est d'accord, ça envoie des petites, bah des
ça,
petites perles.
Ça se voit sur
tout à fait. Il va affronter la Grèce. Il y a des journalistes qui lui demandent, bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense en face? Drazen Petrovic 87, il dit, si vous dites, vous, que je suis le fils du diable, le diable en personne, c'est Nikos Galis.
C'est bien, c'est drôle, j'aime beaucoup.
Elle est exceptionnelle.
Elle est belle.
Le diable en personne, c'est Nikos Galis. Tu sais ce qui se passe deux jours plus tard? Galis, il froisse Drazen et son équipe, parce que le mec était inarrêtable. Inarrêtable. C'est pour ça que je l'ai. En fait, ça se joue tête à tête, mais c'est pour ça que je l'ai mis devant Dejan Bodiroga. Qui est dans ton podium, Bodiroga?
Oui. Juste une question. Ton 2, c'est Galis, du coup?
Ouais.
Ok. Donc on a le même 1.
Oui.
Oui, bah.
Oui, bah ouais.
Moi, j'aurais pu mettre Bodiroga en.
Moi, j'aurais pu mettre Galis en.
Voilà. Tu vois, bah, c'est bien
le
la
podium,
preuve.
Il est...
C'est bien la preuve que c'est pas si évident.
Ah ouais.
Moi, j'ai Bodiroga en 2. Donc comme ça, on va pouvoir parler de Bodiroga là maintenant.
Quel bonheur. Quel bonheur.
Moi, je peux le mettre en 1. Et si vous le mettez en 1, ça me pose absolument aucun problème.
Je me demande ce qu'il aurait été en NBA par rapport à la question que tu posais
un
tout
monstre,
à l'heure.
De... Un All-Star.
Je...
Waouh.
Je pondère.
Eh, Doncic avant Doncic. Hein. Ah si, putain, trop fort. Dans la NBA moderne, après c'est dur de se projeter parce que lui, s'il était allé en NBA, il aurait débarqué dans quoi, la NBA des années 2000 en gros?
Oui,
grosso modo, non, je sais pas, ou peut-être
si,
avant,
si,
90.
C'est à la fin des années 90, début 2000.
Attends, il
Prime,
est quand même...
c'est fin 90, début 2000,
quand
il croise tout
il
avec
Divac. De toute façon, lui, c'est quelle année? Ouais. Ou je sais pas.
C'est 98,
95.
95.
Donc tu vois, non, moi je pense qu'il aurait fait beaucoup de mal.
Ce que je veux dire, c'est
ce
que.
Ce serait vu très très fort.
C'est que parfois, on projette les gars et on se dit merde.
Bien sûr.
Moi, par exemple, dans les années 2000, je me disais, oh là là là, Louis Scola quand il va débarquer en NBA. Et super carrière, hein, Louis Scola. Mais c'est un joueur extraordinaire européen et compétition internationale qui a été un formidable role player en NBA, Louis Scola. Je me demande ce qu'aurait donné Dejan Bodiroga en NBA. Je pense qu'il aurait été énorme.
C'était
je sais
un
pas
génie
si
quand
c'était...
même.
Mais oui, mais je sais pas si c'était...
C'était un génie.
Eh oui, mais Yassikevicius, c'était un génie, mon gars. Théodosic, c'est un génie. Hein.
Bodiroga au-dessus.
Ouais, ouais.
Parce que Bodiroga, il est grand.
Il a tout.
Qu'est-ce qu'il a, Bodiroga?
Tu grand, vois, ils auraient dit en défense, il se ferait percer. Enfin,
alors, il en aurait certainement chié en défense, encore qu'il n'était pas si mauvais. Hein. C'était pas un très tôt, Bodiroga. Attention.
En fait, le mec
hein.
est tellement intelligent que...
Bon. Bodiroga, c'est... Voyez Peja Stojakovic. Il a pas le shoot de Stojakovic, mais il shoot, hein, Bodiroga, mmh. Attention. Par contre, il a le il a un handle.
Non, c'est le Magic Serbe.
C'est ça. C'est un grand qui jouait plutôt dans l'aile. Hein, on aurait plus de 3, quoi. Mais c'est un grand. C'est-à-dire, c'est un mec de 2m04-5. C'est un costaud, Bodiroga. Bodiroga, il fait pas 95 kilos. Hein. Bodiroga, il fait 110, hein, je sais ouais. pas, mais en tout cas, il est. Costaud de ouf, je pense que
c'est Manu avec des muscles
dans le mid-range et de la taille beaucoup plus grand que Manu.
Ouais,
il fait genre 10 cm de plus.
Tu vois, tu prends Manu Ginobili, Magic Johnson, tu les mixes, tu
Follant à Follant. C'est à dire que t'as l'impression comme ça que ça avance pas. Puis en fait, pouf, placa, qu'il est passé. En fait, une fois qu'il est passé, c'est fini.
Ah bah, les plus beaux Eurostep du monde, c'est pas Harden et Manu, hein, c'est Bodiroga.
C'est Bodiroga, les dribbles, la chaloupée et tout. J'aurais pu le mettre numéro 1, le plus complet de tous. Le plus complet de tous les mecs qu'on a cités.
C'est surtout
pour moi.
Le plus moderne, en fait. C'est surtout ça.
Et aussi le mec le plus facile pour se projeter. Non, non, mais ça, je suis d'accord.
On l'a vu jouer en 2000. Mais, les autres, mais parce ça
qu'il est, mais parce qu'il est all around de malade. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, genre, oui, je sais, certains vont me dire, ah, en défense, il en aurait chié. Il en aurait chié, mais moi, je pense qu'il serait quand même supérieur à pas mal de mecs européens qu'on a vu débarquer depuis.
T'inquiète, hein, Petrovic, il se faisait fumer. Nikos Galis, il aurait pris la poutre. Enfin, tout le monde se fait enfoncer
tu vois,
en NBA.
Kukoc, il a dû mettre des gros efforts et tout, machin.
Ouais, c'est chaud.
Bon, bah, Doncic, on en parle souvent. Jokic, on en parle souvent.
Ricky Rubio, on avait dit.
Le jump athlétique est très compliqué. Ricky Rubio, c'était pas le plus en galère.
C'était très bien, mais tu vois, quand on a fait des jumps de, waouh, il a froissé toute l'Europe, ce mec va exploser la NBA. Parfois l'adaptation est difficile pour ces
parfois
génies.
L'adaptation est difficile, mais vraiment beau dire au gars, je pense qu'il aurait trouvé ça facile de scorer même dans les années 2000.
Bah là ce qui est sûr, c'est que lui on l'a vu dans les compétitions de plus haut niveau et pas européen, c'est-à-dire
c'est pareil, le palmarès info scroller.
International tout à fait. Dans les plus grands rendez-vous en équipe nationale, il répond présent. Et ça ça veut tout dire, c'est-à-dire que quand tu es le meilleur équipe du meilleur pays, quand tu es le meilleur joueur du meilleur pays, c'était pas Vladivac, hein, le meilleur joueur de la sélection. Hein. À la fin des années 90, là, ils sont quoi ? Champion 90
de quoi ?
2002, Indianapolis.
Bah, aux États-Unis, c'est le meilleur joueur de l'équipe championne du monde. Ah, c'est Dejan Bodiroga.
Et ils ont l'Eurobasket. Il a 3 médailles d'or à l'Eurobasket et 2 médailles d'or en Coupe du Monde.
Tout le temps. Tout le temps.
Il manquait l'Olympiade, là.
Il lui manque, ouais, il a une médaille d'argent hein, quand même en 96. Hein, attention, hein, il a une médaille d'argent sur le sol américain.
Oh là 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 là. Les fondamentaux absolus. Ouais. Regardez-le.
Fondamentaux, techniques, vista, qualité de passe, qualité de finition près du cercle, des deux mains, tous les moves, les push-shots, les petits hooks, les finger rolls, les machins. Un vrai shoot. Enfin, franchement, Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga. Extraordinaire joueur. J'aurais vraiment pu le mettre un. Mais j'ai choisi Oscar Schmidt.
Et
je pense que Bastien a fait pareil.
Je n'écris pas quand nous sommes Korda, le numéro 1 de ce top 10. Est une nouvelle fois un alignement entre Alex et Bibi, Oscar Schmidt.
Qui, comme son nom l'indique, est brésilien.
voilà, voilà. Formidable exode. la diaspora allemande en Amérique du Sud, on n'en parle pas assez.
Le joueur de malade. Le joueur de grand malade. La plupart des gens en ont déjà entendu parler, le connaissent. Lui aussi, ailier, grande taille, costaud, massif, un scoreur. C'est un peu compliqué. Son surnom, c'est la main sacrée, le mec. De toute façon. Donc, parce qu'il avait des mains.
Il a pas l'air bien, basket, là, Scottie. Hein. Ah, c'est Scottie Pippen.
Ouais.
Il a pas l'air bien, main.
Il est. Ouais, c'est lui. Il a trop scoré.
Ah, c'est le premier nom auquel on a pensé.
Ouais, voilà, c'est le premier nom souvent auquel tu
Oscar
penses.
Oscar Schmidt, tu fais aller.
Tu penses vite à Bodiroga. En tout cas, moi, j'ai vite pensé à Bodiroga, clairement, parce que j'ai des souvenirs de ça, de genre, ce mec-là, il va aller en NBA. J'étais là, genre, waouh, ouais, il va casser des bouches. Puis finalement, il n'y est pas allé. Donc, j'ai l'histoire tout de suite, tu vois.
Moi,
il y a de la frustration, limite.
Moi, c'est ce qui s'est passé exactement pour Nikos Galis, parce que je me souviens avoir bossé là-dessus sur le livre orange. Je m'étais enfoncé du Nikos Galis dans la tête et je me disais. Si un mec fait ça dans l'ère actuelle, OMG, c'est-à-dire que si Yanis remportait le championnat d'Europe à 34 points de moyenne, je ferais.
Non, moi je te parle de dans les années 90. Je te parle de dans les années 90 quand on regardait les drafts et qu'on disait ah ouais putain ils ont pris Dejan Bodiroga et on voyait les championnats d'Europe, on regardait parfois la Coupe d'Europe, on voyait très bien qui c'était Dejan Bodiroga.
Bah ouais.
C'est pour ça en fait voilà. Mais effectivement non. Effectivement Oscar Schmidt. C'est intouchable. Il a été drafté. Il a fait la Summer League. Il y a la Summer League de 84 dont j'ai parlé, Hervé Dubuisson. Il y a Oscar Schmidt avec les Nets aussi. Bah lui non plus il va pas y aller. Lui est drafté. Par contre Oscar Schmidt, mais il ne va pas y aller.
Les accomplissements collectifs. Il y a un match légendaire face aux Américains. Les Panam. Pan American Games. Tiens,
c'est là-dedans. Hein. Ça c'est notre livre jaune là.
Tout premier.
Ouais. Jeux panaméricains, Indianapolis. Quitte à perdre, autant le faire à la maison. On reconnaît le style provocateur des écrivains de Trash Talk. Le public voulait fantasmer devant ce géant nommé David Robinson. Le seul problème en finale face au Brésil, l'amiral tombera sur son supérieur hiérarchique, le maréchal Oscar Schmidt. J'aime beaucoup la rédaction de ce petit texte. Refusant de perdre face à l'armée américaine, le sniper brésilien plantera 35 de ses 46 points en deuxième mi-temps. Voilà, pour aller chercher la médaille d'or face aux Américains. On n'en parle jamais, le mec tabassait les Américains. Avec l'équipe du Brésil. Hein. L'équipe du Brésil des années 80.
Non, mais...
faut voir les coéquipiers, quoi.
C'est chaud.
C'est chaud.
Quand LeBron a passé Kareem Abdul-Jabbar au scoring et qu'on a dit yes, the greatest au scoring, il y a Oscar Schmidt qui est arrivé et qui a fait frérot.
Non, frérot, il y a encore moi.
Il te reste 2-3 saisons pour aller me chercher.
Il l'a fait. Depuis.
Le mec qui a mis le plus de points après LeBron dans l'histoire du basket officiel, son nom c'est Oscar Schmidt.
Les Jeux Olympiques 88. Les Jeux Olympiques 88, hein, avec le Brésil, 42 points de moyenne, Oscar Schmidt.
Bon, la compétition est assez courte, mais il faut quand même en mettre 42.
Les Jeux Olympiques 92, 25 points de moyenne. Hein, il avait quel âge en 92, lui?
Il a joué jusqu'à 50 ans.
Il a quel âge en 92? Parce qu'il est de... Oh, il a 34 ans, non, ça va encore. Autant pour moi. Voilà.
La légende. Son héros, à lui, c'était Larry Bird. Quand il arrive au Hall of Fame, il dit « Moi, mon frisson, c'était d'avoir Larry Bird. » Et en fait, c'est un peu le Larry Bird brésilien, scoring... Shooter, toucher, la main divine.
Moi, en fait, le truc qui m'a un peu... J'ai fini par le mettre numéro 1, mais le truc où je discutais et tout, c'est que je me disais, bon, c'est con parce que le mec a vraiment pas joué en Europe. Et du coup, parce que quand tu regardes les années, bon, bah, il aurait été nez à nez avec Nikos Galis. Il aurait été certainement un peu bah, avec Brody Roga aussi, un peu plus tard, hein, vieux et tout. Sûr. Et donc là, le truc, c'est que là où on a des palmarès de fou malade, d'Euroleague, d'Eurobasket, de machin et tout, bah, lui, il a pas ça dans sa feuille. Mais en fait,
non, il y aurait tout.
C'est n'importe quoi. Parce que ce qu'il fait dans les compétitions internationales, c'est monstrueux.
Monsieur Oscar Schmidt, numéro 1 all-time des joueurs qui n'ont jamais mis un orteil en NBA.
La Mao Santa.
Absolument. Et on va montrer... Le gros tableau avec voici le top 10 d'Alex et le top 10 de Bibi. Dites-nous, vous, qui vous avez dans votre top 10. Attention, je rappelle, il faut n'avoir jamais mis un orteil en NBA. Donc, désolé pour Antoine Rigaudot, désolé pour certains garçons comme ça qui sont des légendes, mais ont quand même mis un orteil en NBA. La suite, c'est très simple. On va vous souhaiter une excellente semaine. Vous allez foncer dans les commentaires pour nous suggérer des top 10. Et on se retrouve lundi prochain pour un autre petit top 10. Allez, des gros bisous à toutes et à tous.
Ciao tout le monde. Bisous. Ciao. Ciao.